RFI.
Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons voir les modes de production des œufs en élevage alternatif avec le CNPO, qui est le Comité national pour la promotion de l'œuf, à Trémorel, à Merléac et Enansal, trois communes françaises situées dans le département des Côtes d'Armor en Bretagne. Il faut partir de bon matin pour une telle affaire, car à la ferme, la collecte des œufs se fait dès les aurores et au centre de conditionnement, les travaux doivent être menés sans tarder pour des livraisons rapides.
Madame, messieurs, notre train va bientôt partir. Attention à la fermeture des portes, attention au départ.
Rendez-vous est donc pris très tôt, gare Montparnasse, d'autant qu'il faut couvrir une distance de plus de 400 km entre Paris et les Côtes d'Armor. Ce qui nous laisse le temps de voir la problématique de base. D'abord le CNPO, c'est-à-dire l'organisme qui nous invite à ce voyage. En France, ce CNPO est l'interprofession de l'œuf qui est composé de 5 collèges et de 8 organisations membres, soit un total de 37 administrateurs. Reconnu par les pouvoirs publics le 12 mars 1996, il est chargé de contribuer au développement et à la prospérité des différentes branches de la filière ponte. À présent, la question de l'œuf. D'après les estimations de la Commission européenne, la production européenne en 2017 atteindrait 115 milliards d'œufs. Avec 14,9 milliards d'œufs produits en 2017, la France maintient sa place de premier producteur de consommation de l'Union européenne avec environ 13% de la production, suivi de l'Espagne 13,3 milliards, de l'Allemagne 13,2 milliards et de l'Italie. En France proprement dit, 40% des effectifs des poules pondeuses sont en Bretagne, 13% en Pays de la Loire, 11% en Auvergne-Rhône-Alpes, 10% dans les Hauts-de-France et 25% dans le reste des régions. Après la gare de Rennes, c'est en autocar que nous prenons la direction de Trémorel, ce qui nous laisse le temps de vous parler de l'élevage alternatif. Jusqu'en 2012, l'élevage des poules pondeuses se faisait en cage, c'est-à-dire des sortes de grands hangars où chaque poule vivait dans un espace réduit sans possibilité de se mouvoir. Les choses changent avec les directives européennes de 2012. C'est un document produit par des technocrates intitulé « Directive 1999-74-CE » du Conseil du 19 juillet 1999 fixant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. On a désormais 4 types d'élevage dits « alternatifs ». L'élevage biologique ou code zéro, les poules sont alimentées avec de la nourriture biologique. Elles ont accès à des parcours extérieurs où elles disposent de végétation. En intérieur, elles disposent de nids, de perchoirs et de l'alimentation dont elles ont besoin. L'élevage en plein air ou code 1, les poules ont accès à un parcours extérieur au cours de la journée. Les œufs label rouge sont marqués du code 1. L'élevage au sol ou code 2 indique que les poules évoluent librement à l'intérieur d'un local sans parcours extérieur. L'élevage en cage aménagée ou code 3, il représente la part la plus importante de la production française. Les poules vivent dans de nouveaux hébergements en groupe de 20 à 60 où elles disposent en particulier de perchoirs et de nids.
Oui, on arrive.
Bonjour.
Vous avez le droit de terminer votre cigarette ?
Les femmes et les enfants d'abord.
Pas de problème.
Notre première étape, c'est le centre de conditionnement des œufs de Trémorel, l'un des 8 centres français appartenant à l'entreprise Matine. Il peut sembler plus logique de commencer notre périple pendant la collecte à la ferme. Mais il y a des impératifs économiques qui imposent d'inverser le programme. La collecte à la ferme se fait pendant que le commun des mortels est encore au lit et le centre de conditionnement doit effectuer ses livraisons au plus tard à 14 heures dans les différents points de vente. Ça ne peut donc pas attendre. Nous sommes reçus par David Cassin, qui est responsable du centre de conditionnement de Trémorel.
Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Donc, vous allez visiter ici un centre d'emballage d'œufs.
Ici, il y a des impératifs de sécurité sanitaire. Le visiteur doit être équipé de sorte à protéger les produits et les installations de toute forme de contamination qui pourrait provenir de l'extérieur. Et pendant cette visite, nous allons bénéficier des explications de David Cassin et de Marie Crotero.
Donc ici, d'abord, il y a des conditions d'hygiène particulières.
Comme toute entreprise agroalimentaire, on se doit en fait de garantir à nos consommateurs qu'on n'aura pas de contamination venant des salariés. Donc on a un équipement minimum.
Donc il y a la blouse, les casques.
Les casques, c'est pour la partie sécurité, puisqu'en fait notre objectif est de tendre vers zéro accident et que nos salariés ne se blessent pas au cours de leur journée de travail.
Et les visiteurs non plus ?
Non plus, on peut pas. On applique les mêmes règles.
D'accord, je vous suis. Ah oui, ça se voit pas quand on arrive, mais c'est énorme ici.
Alors on a 6000 m² de bâtiment, plus 4000 de stockage, donc aujourd'hui on a un site qui fait 10 000 m².
Ah oui, et il y a combien d'employés ici ?
Donc on a 65 personnes, plus des intérimaires qui sont là régulièrement.
Et tout est automatisé ?
On voit en effet, on a 4 robots sur site, donc une partie est automatisée et à l'entrée de la ligne et à la sortie.
D'accord. Alors, les œufs arrivent par où ?
Les œufs arrivent de l'autre côté.
Oui, allons-y. Ah oui, mais tout est, ça n'arrête pas ici.
Tout à fait, c'est une vraie fourmilière, mais comme toute entreprise agroalimentaire.
Oula ! Ah ouais !
Donc ici, on est dans le stockage de la matière première. Donc nos œufs sont arrivés le matin par nos camions et puis sont réceptionnés, pesés et puis stockés en attendant d'être conditionnés.
Ah, donc ceux qui viennent d'arriver ici, ça n'a pas encore été traité ?
Non, ceux qui sont là sont vraiment ceux qui sont la matière première, celle qui va arriver sur notre calibreuse derrière.
D'accord. Je vous suis. Maintenant, il y a une étiquette là, vous pouvez me décortiquer ça ?
Alors, sur l'étiquette, on va retrouver les informations de l'élevage, donc son nom, son code éleveur que le consommateur va retrouver sur l'œuf. On a la date de ponte, le nombre d'œufs, quand on les a reçus sur site, et puis le poids moyen. Ce poids, en fait, nous aide à mieux orienter les œufs lorsqu'on va fabriquer.
Ah, lorsque vous allez partir dans l'autre...
Sur la calibreuse, sur le conditionnement d'œufs.
Comme nous venons de l'entendre, les centres de conditionnement ont la délicate mission de calibrer et d'emballer les œufs, ce qu'on appelle ici la partie production.
Ah, on rentre dans l'univers de l'agroalimentaire et d'un centre de conditionnement, donc avec les œufs. On n'imagine pas 1 million d'œufs, c'est beaucoup par jour, mais aujourd'hui, c'est ce que vous retrouvez ici en stock et ce qu'on va retrouver dans les produits finis à l'expédition.
Vous voulez dire que chaque jour, vous traitez 1 million d'œufs ?
Tout à fait. Chaque jour, on traite 1 million d'œufs sur le site. Voilà, c'est ce que le consommateur consomme en moyenne à peu près 220 œufs à l'année. Donc, il consomme plus d'un œuf par jour, soit dans des produits transformés ou dans l'œuf coquille.
D'accord. Bon, maintenant, ce que vous appelez mirer, on va attendre que le groupe, ou bien on peut y aller. Ah oui, on doit rester ensemble.
Oui, parce que pour des raisons de sécurité, tout le matériel qui circule, l'objectif c'est que je vous ramène entier jusqu'à l'accueil.
Ben, nous aussi on le souhaite pas. Alors là, nous sommes dans la partie production. Il y a une première phase là, il y a des palettes qui tournent.
Donc il y a une première phase en fait de dépalettisation. Donc on vient défaire la palette qu'on reçoit de l'éleveur.
Ah oui, cette machine-là, en fait, défait la palette.
On n'a pas bu, c'était tout. On va repasser de l'autre côté. Hein. Donc là, en fait, les alvéoles sont mis une par une sur la machine. Et puis là, en effet, on vient les déposer en douceur sur notre ligne avec l'aide de ventouses pour éviter, en fait, de casser l'œuf au moment où on le dépose.
Donc ici, le tri, on trie ce qui est cassé, ce qui est fêlé.
Oui, donc le premier tri est fait par ce qu'on a devant nous qui s'appelle l'Egg Inspector.
Celui-là, là.
Où là, par caméra, on vient détecter si les œufs sont sales ou cassés. S'ils sont sales, ils vont être répertoriés par la machine pour pouvoir les évacuer. Et s'ils sont cassés, elle va tout de suite les évacuer, ce qu'on a juste derrière nous, là. La petite caisse qu'on a juste derrière.
Donc, en fait, ça passe. Et là-dedans, il y a tout un système
de caméra. Tout à fait, pour prendre en photo, entre guillemets, les œufs. Et puis, ça va venir, en fait, répertorier si l'œuf est sale, s'il est cassé ou s'il est conforme. Et s'il est conforme, il continue. S'il est cassé, il vient sortir. Et
puis, ceux qui sont là, c'est la machine qui est déjà jetée.
Exactement. L'objectif étant de ne pas avoir d'œufs cassés qui viennent salir les autres sur la ligne.
D'accord. Ça, c'est une première phase de...
Phase. On en a une deuxième qui est derrière qui va permettre de détecter si les œufs sont fêlés. Donc la machine là va aussi répertorier les œufs conformes et non conformes. Donc c'est ce qu'on appelle le crack.
Le
crack.
On peut aller voir?
Alors on va pas pouvoir l'ouvrir, mais on peut aller le voir, oui.
Non, ouvrir, non, mais je vous suis. Ah oui, ça c'est la deuxième phase.
Voilà, c'est la deuxième phase où là en fait on vient taper avec des petits marteaux. En douceur, hein, pour pouvoir détecter si l'œuf est fissuré par résonance.
Là-dedans, il y a...
On entend le bruit, hein, si vous écoutez, on entend des petits tapotis. Et donc là, on vient en fait détecter les fissures de l'œuf.
Et devant là, c'est quoi?
Un centre de conditionnement, ça mire les œufs. Donc ça enlève les œufs sales et les fêlés, mais ça vient aussi les séparer par catégorie de poids. Quand vous achetez une boîte d'œufs, vous vous retrouvez avec des œufs de catégorie des œufs moyens, des œufs gros, par exemple. Donc la machine vient aussi séparer, vient peser tous les œufs pour les séparer par catégorie de poids.
Ça veut dire qu'une fois que ça passe dedans, c'est calibré,
exactement,
pesé.
Tout à fait, c'est calibré, enfin miré, calibré, pour pouvoir être mis en boîte pour le consommateur.
Et tout ça, ça se fait automatiquement.
Exactement. C'est ce qu'on a ici, c'est la partie pesée.
Et une fois de plus, ceux qui ont des problèmes sont rejetés.
L'objectif est d'évacuer au plus tôt les œufs qui sont cassés, qui peuvent nous poser problème. Pour éviter qu'ils viennent salir en fait les autres et livrer aux consommateurs le bon produit.
On est obligé d'attendre le groupe.
Oui, on est obligé d'attendre le groupe.
Les œufs sélectionnés sont ensuite marqués pour permettre aux consommateurs de connaître le mode d'élevage. Il y a des informations portées sur la boîte et des informations portées directement sur l'œuf lui-même.
Donc ici, on est sur la zone d'expédition, de stockage avant expédition. Alors, on va faire là aussi de la pédagogie. Comment s'est fait une boîte? On a le calibre. M, c'est du moyen. A, c'est obligatoire, c'est de la catégorie A. Et vous avez ici... Le code du centre, FR22-371-014, c'est le centre d'ici. Voilà, c'est du plein air. 1FRHBM03, ça c'est l'éleveur, le bâtiment. DCR, ça consommait avant le 17 octobre. Et vous avez sur la boîte le lieu de conditionnement de l'œuf. On peut difficilement être plus précis et être mieux tracé que ça.
C'est la machine qui a tout écrit sur l'œuf.
C'est la machine qui écrit, oui, tout à fait. On a une obligation légale en Europe d'indiquer le code d'éleveur. Ensuite, on peut mettre d'autres mentions. Ici, par exemple, on a marqué, c'est du label rouge fermier, donc on l'a marqué en toutes lettres. Et on a rajouté la date de consommation recommandée.
C'est ce qu'on appelle lire un œuf.
Voilà, on lit un œuf.
D'accord.
Donc on a même, c'est légal, l'obligation d'indiquer le nom de l'éleveur et son adresse. Et on reprend le code du centre.
Là, il y a beaucoup de pédagogie, là, parce qu'il y a nourri sans OGM, produit en Bretagne. En fait, il y a toutes les informations dessus.
Alors, très bonne remarque. N'oubliez pas une chose, tous les débats qu'on peut avoir autour du mode d'élevage, avec l'œuf, un, on a connaissance du mode d'élevage, c'est pas le cas des autres produits alimentaires, des autres produits animaux, et le consommateur a le choix, en toute responsabilité, d'acheter le mode d'élevage qu'il souhaite.
Ah oui, mais Marie, moi je viens de découvrir plein d'infos ici, quand on va faire les courses, on voit pas tout ça.
Alors aujourd'hui, le grand public, il connaît quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'il sait que le code 3, c'est de l'élevage en cage, puisqu'il y a eu beaucoup de pédagogie faite sur ça. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que le consommateur, il sait ce que c'est le code 3, le code 1, éventuellement le 0 s'il a l'habitude d'acheter des œufs biologiques. Ça a quand même beaucoup progressé. Alors par rapport à il y a 10 ans, le consommateur, quand même, petit à petit, connaît de plus en plus le mode d'élevage et ce que ça signifie quand il regarde un œuf.
Donc quand on a décidé de faire cette transition vers l'alternatif, ce travail pédagogique aussi a eu lieu en même temps.
Alors, il a eu lieu, puis il a lieu régulièrement. Et puis, toute l'actualité et tout ce qu'il peut y avoir autour de l'œuf, autour des modes d'élevage, fait que le consommateur, petit à petit, est de plus en plus sensibilisé au mode d'élevage et à quoi ça correspond, tout simplement.
Oui, parce qu'il n'y a rien de plus innocent qu'un œuf, mais quand j'écoute monsieur, il y a beaucoup de choses.
Tout à fait. Aujourd'hui, quand on achète un œuf, on peut acheter un mode d'élevage, une fraîcheur, l'alimentation des poules. L'offre est très diversifiée pour le consommateur.
Marie, avec toutes ces infos, moi, je ne vous envie pas. Hein, parce qu'il faut, être obligé de faire tout ça.
Comme tous mes collègues qui sont dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, on a des problématiques pour la partie hygiène. Donc, on doit respecter les règles d'hygiène, la sécurité, la réglementation, ce que notre consommateur aussi veut. Je crois qu'on est tous dans le même cas aujourd'hui. C'est ce qu'on doit faire pour respecter et puis pour continuer à travailler, parce que si on ne respecte pas toutes ces règles, demain, aucun d'entre nous ne peut venir travailler.
Mais c'est la transition qui vous a imposé toutes ces règles-là.
Aujourd'hui, ce qui nous impose, entre guillemets, les règles, c'est et la réglementation et les besoins de nos consommateurs et des clients. En effet, qui font que petit à petit les règles peuvent augmenter ou diminuer, hein, ça dépend, mais en effet, c'est nos clients et la réglementation.
Donc, c'est volontairement que vous nous avez fait commencer la visite ici ce matin pour qu'après on aille voir à la ferme comment ça se passe.
Aujourd'hui, nos clients en fait passent leurs commandes le matin et ça doit être expédié dans l'après-midi. Donc si vous étiez venu à 16h ou 16h30, il n'y avait plus de production et on n'était que sur la partie expédition.
D'accord.
Généralement, le circuit habituel, c'est plutôt de voir les élevages, que vous voyez le début de la chaîne, et puis après que vous voyez le centre de conditionnement.
Oui, mais si on était venu après l'éleveur, ici, il n'y aurait plus rien.
Exactement. Donc là, c'est pour ça qu'on a inversé un petit peu le fonctionnement habituel.
D'accord. Marie, la visite est finie. Là, je vais vous dire merci.
De rien. On est très content de vous avoir reçu et puis de partager notre métier.
En tout cas, pour moi, c'est une réelle découverte.
J'en suis contente. Ça vous permet de savoir aujourd'hui, quand vous achetez une boîte d'œufs, quel est le travail qui a été effectué avant.
Merci. À la ferme.
D'accord.
On quitte le centre de conditionnement de Trémorel et on prend la route pour Merléac. Le but de cette deuxième étape, c'est la visite de l'exploitation de Patrick et Elisabeth Amour au lieu dit le Bois Baucher. Il s'agit d'un élevage de poules élevées en plein air et bio sur deux sites. Là également, il y a des impératifs. Le visiteur doit porter tout un équipement de sécurité avant de pouvoir entrer dans les lieux.
Et qu'est-ce qu'il faut faire là?
Là, il faut vous habiller. Parce qu'on ne rentre pas dans un poulailler comme on rentre ailleurs. C'est comme à l'hôpital.
Ah là là. La biosécurité. Il y a tout dedans. Il y a la charlotte, même peut-être bien le masque.
Je ne vais pas y arriver, moi.
Est-ce que vous voulez qu'on vous aide?
C'est une très bonne idée.
Oui. Alors.
Donc, on va faire le bio ici.
Le bio, d'abord.
D'accord.
Donc ici, c'était une exploitation qui avait été reprise à mes parents. Donc, en 89. Et ils avaient débuté dans la volaille dans les années 65. Et ensuite, en 89, nous, on a repris. Moi, je faisais de la pisciculture avant. Et je me suis repris la ferme existante. Il y avait 40 000. Et on a laissé 20 000. Et on a repris les 20 autres 1000. Et on a retransformé quelques années après en cage.
C'est de la volière.
Voilà. Il y a différents systèmes de mode de production. Soit il y a le système Calibouti, ou alors le système, nous, ce qu'on appelle de la mini-volière.
Et c'est quoi mini-volière ?
Mini-volière, c'est parce que les poules, elles peuvent aller au sol, et c'est, disons, que la fiente ne reste pas dans le bâtiment, alors que lorsqu'on est en système Calibouti, la fiente reste tout le temps dans le bâtiment toute l'année. Alors que nous, on a des tapis à fiente, tous les deux jours, on retire la fiente.
Ça veut dire qu'elles montent, elles descendent, elles font ce qu'elles veulent.
Elles font ce qu'elles veulent dans la volière. Attendez, on va rentrer. Les poules mangent là, dans cette mangeoire. Elles boivent aux pipettes là. Et elles vont pondre dans les nids. Les déjections tombent sur le tapis là. Et le tapis, les fientes, régulièrement, tous les jours, on fait avancer le tapis pour aller dans les faux, dans le hangar à fientes.
Et qu'est-ce qu'elle mange ?
Qu'est-ce qu'elle mange ? Elle mange de l'aliment à base de céréales, du blé, de l'orge, du colza, et avec tous ces aliments, sont bio.
Il y a combien de poules ici ?
Et dans celui-ci, il y a 12 000 poules. Elles pondent leurs œufs dans le nid, il y a des bandes à œufs. Si elles pondent là, les œufs peuvent aller encore sur la bande à œufs ici. Et le ramassage est automatique.
Ah oui, c'est la machine.
Les bandes à œufs avancent et on ramasse, les œufs passent sur le convoyeur là, pour arriver dans le centre de conditionnement.
Mais qu'est-ce qu'elles boivent là ?
Elles boivent de l'eau.
Et c'est où ?
Là, les pipettes là, juste là.
Ah oui, d'accord, oui.
Il n'y a pas très longtemps qu'elles sont arrivées, elles sont arrivées le 17 juillet. Donc là, la semaine prochaine, elles vont avoir autorisation, on va lever le rideau.
Elles pourront aller dehors.
Les autres que vous allez voir là-bas, elles sont plus vieilles, elles vont déjà dehors.
D'accord, là c'est juste pour les habitués.
Là c'est des étapes. Il y a les trappes et du coup, après, on lèvera tout le rideau et elles auront vu sur l'extérieur et elles iront manger de l'herbe dehors. Mais le soir, quand c'est l'heure de se coucher, donc on éteint d'abord la lumière de ce bâtiment-ci. La lumière dans le bâtiment reste encore allumée et elles savent qu'il faut rentrer. Et une poule, instinctivement, pour se coucher, elle se perche. Donc on essaye de donner un confort au niveau température pour nos animaux.
On va voir
l'extérieur.
Ah oui, donc quand elles vont s'habituer, on ouvre là et puis elles vont...
Ouais. Et ici, derrière le talus, là, ils vont complètement dans le bois. Donc on va parquer et puis on va séparer, parce qu'il faut séparer toutes les 3000 par 3000. Donc là, on va ouvrir la semaine prochaine. Donc on a 8 jours là, pour finir de clôturer. Donc on ferme avec un grillage plastifié ici, les 5 hectares. Et après, on sépare les lots 3000 par 3000. Donc ils ont 1 hectare 25 pour 3000 poules. Et ça va au talus, et au-delà du talus, derrière, il y a de l'herbe aussi, et il y a du bois un peu. Donc elles vont se promener là. 1 hectare 25.
Après un déjeuner à la ferme, on va visiter le deuxième site d'élevage en plein air, ce que les spécialistes appellent le code 1. Avec un tel aménagement, les poules ont le choix de rester dans le bâtiment ou d'aller se promener dehors en plein air.
La poule n'aime pas le soleil, pas beaucoup.
Là, nous sommes dans le plein air.
Dans le plein air, dans le bâtiment plein air où il y a 33 000 poules.
Ah oui, donc en réalité, elles vont où elles veulent, quoi.
Elles vont où elles veulent. Elles ont pratiquement 14 hectares de terrain pour gambader.
Et elles sont toutes à l'ombre, là.
Parce que la poule n'aime pas le soleil, elle préfère l'ombre ou alors être à l'intérieur du poulailler où il y a la brume qui se déclenche dès qu'il fait au-dessus de 24 degrés.
En fait, comme nous, quoi.
Voilà, c'est ça, oui.
Elles mangent quoi ici ?
Elles ont de l'aliment au quotidien dans la journée et là, quand elles veulent sortir, elles vont manger de l'herbe dans le champ. Elles ont mangé les premiers pas et puis elles vont plus loin après... Les plus téméraires vont de plus en plus loin dans le parcours.
En réalité, elles font ce qu'elles veulent.
Voilà, elles sont en liberté. Mais en liberté avec un grillage pour les protéger des prédateurs. Ah, ouais. Des renards ou des sangliers ou des chevreuils ou autres. Disons, il faut qu'ils...
Mais là aussi, il a fallu un aménagement particulier.
Ouais, on a mis du grillage avec là qu'on est à terminer et électrifié de façon à ce que là... Le prédateur extérieur ne rentre pas dans le parcours.
Électrifié.
Oui, pour empêcher le renard. Si le renard arrive et qu'il va grimper, il peut passer de l'autre côté. Que si c'est électrifié, là on met différents niveaux de courant électrique pour que s'il veut grimper, il peut pas. Il reçoit une décharge.
Alors, leur quotidien, c'est quoi ?
leur quotidien. Elles se lèvent à 6 heures, elles mangent, elles pondent. Vers 11h midi, on ouvre vers le parcours extérieur. Elles sortent si elles ont envie. Les chaînes d'alimentation se remettent en route quotidiennement dans la journée et elles vont manger et boire. Donc
dès qu'elles entendent la chaîne d'alimentation,
elles rentrent pour aller.
Ouf, merci, merci. Après, on va où maintenant?
Oui, on va être 14. Maintenant, on va voir des poules au sol.
D'accord.
Après Merléac, nous partons pour Enansal pour visiter un élevage de poules au sol. Ce type d'élevage dit quart 2 indique que les poules évoluent librement à l'intérieur d'un local sans parcours extérieur. Nous sommes reçus dans la ferme de David Carfantin, qui a choisi de faire de l'élevage au sol depuis 2009, c'est-à-dire avant même les directives européennes de 2012. Et une fois de plus, il faut un équipement spécial pour pouvoir entreprendre la visite.
Il faut encore remettre des choses.
C'est quoi ça?
C'est la même chose.
Je vous dis la vérité, je commence à détester les poules. Bon, maintenant, comment ça marche, ce bidule? Vous êtes sûr d'avoir ma taille dans cette affaire-là? Après, il faut se laver les mains.
Oui.
Elles sont où, les poules?
Bon, on va aller les voir.
Ah oui, quand même.
Elles sont dans le bâtiment, mais elles ne vont pas dehors.
Pourquoi on appelle ça au sol?
Pourquoi on appelle ça au sol? Parce que d'abord, elles ont la possibilité d'aller au sol, contrairement à une poule qui est en cage. Par contre, elles ne peuvent pas aller dehors. Avec notre matériel, la poule elle peut exprimer tous ses comportements naturels. Elle peut se percher, elle peut pondre dans un vrai nid, elle peut dégratter par terre, elle peut faire son bain de poussière, elle peut voler. Il n'y a qu'une chose qu'elle ne peut pas faire, c'est d'aller dehors.
Et elles sont nourries comment?
Elles sont nourries par moi, nous on fabrique notre aliment.
Mais quand vous dites on fabrique nos aliments, c'est à base de quoi?
C'est quoi? C'est maïs, blé, soja, c'est que des produits naturels. Hein. Tourteau de tournesol, un peu de minéral, du phosphate bicalcique, du carbonate, voilà.
Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, appelait ton cocoton, son coq absent pour l'instant. On était au mois de mai, et déjà l'air enflammé, et moustiqué jusqu'aux os, les chats, les chiens, les oiseaux.
Nous étions à Trémorel, Merléac et Enansal, dans le département des Côtes d'Armor en Bretagne, en compagnie des responsables et techniciens du Comité national pour la promotion de l'œuf ou CNPO et les éleveurs de poules pondeuses qui nous ont expliqué les enjeux de la transition de l'élevage en mode alternatif. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moschinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Avant de se quitter, toujours cette bonne nouvelle, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est désormais très simple. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.
J'en ai comme un vertigo.